إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول. Donc on continue dans notre explication du commentaire du livre Qurrat Uyun al-Muwahhidin, le commentaire du Cheikh Saleh al-Fawzan, et Qurrat Uyun al-Muwahhidin écrit par le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan yani al-Sheikh hafizahullahu ta'ala. Donc on est toujours dans le premier chapitre et le Cheikh il explique maintenant les preuves qui sont mentionnées du Coran et de la Sunna, et il mentionne, il dit ensuite à partir de là où on a laissé hier, وَهَذَا التَّوْحِيدُ هُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ دِينًا سِوَاهُ كَمَا قَالَ الْكَرِيمُ إِبْنُ الْكَرِيمُ إِبْنُ الْكَرِيمُ إِبْنُ الْكَرِيمُ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَهَذَا هُوَ الدِّينَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رُسُلَهُ وَأَنْزَلَ بِهِ كُتُبَهُ وَأَمَرَ الرُّسُلُ أَنْ يُقِيمُوهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Donc, on va lire donc les explications de ça. Le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il explique que le tawhid, hein, c'est l'islam, c'est la religion de l'islam. Donc la religion de l'islam, la réalité de la religion de l'islam, c'est le tawhid. Et c'est la religion que Allah yani, n'acceptera de personne une religion autre que l'islam. Il n'acceptera aucune autre religion que l'islam, peu importe de qui il s'agit. Et il mentionne que yani al-Karim, le fils d'al-Karim, c'est-à-dire Yusuf alayhi salam. Pourquoi? Parce que Yusuf alayhi salam yani il est le fils de Yaqub, et Yaqub est le fils d'Ibrahim. Hein? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je me mélange toujours? Oui, le fils de Ishaq, et Ishaq est le fils d'Ibrahim. Donc c'est une chaîne d'un prophète qui est le fils d'un prophète qui est le fils d'un prophète. Hein? Donc Yusuf alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il dit dans le Coran, dans sourate Yusuf, le verset 40, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ, c'est-à-dire le jugement n'appartient qu'à Allah. Et il a ordonné que yani, personne ne soit adoré excepté lui. أَمَرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ. Il a ordonné que vous n'adoriez personne autre que lui. Et ça, c'est la religion avec laquelle Allah a envoyé tous ses messagers, et par laquelle il a fait descendre tous ses livres. Et il a ordonné tous ses messagers de l'établir, cette religion. Et comme il le mentionne dans le verset 13, dans Sourate Shura, il dit, il a légiféré pour vous comme religion ce qu'il avait enjoint à Nuh alayhi salam, Noé, et également ce qu'il a révélé à toi, c'est-à-dire au Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et ce que nous avons enjoint également à Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse, wa Isa, Jésus. An aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. C'est-à-dire, c'était quoi hein, qu'il leur a ordonné de faire? C'est d'établir la religion, c'est-à-dire d'établir le tawhid, et de ne pas se diviser dans la religion. De ne pas se diviser dans la religion. Et donc, on va lire maintenant quelques commentaires au sujet de ce passage-là. Cheikh Al-Fawzan, il dit, « At-tawhid huwa l'islam. »« Qala ta'ala, inna ad-dina indallahi l'islam. »« Ad-dinu, yani at-tawhid. » فلا يقبل الله إلا التوحيد وكل الأديان المخالفة للتوحيد مردودة كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله وهذا هو الإسلام الذي جاء به جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. Donc le cheikh il explique, il dit que le tawhid c'est l'islam. Le tawhid, l'unicité d'Allah, c'est ça l'islam. Ça résume l'islam, c'est le message fondamental de l'islam. Et il mentionne le verset 19 dans sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes la religion d'Allah c'est l'islam. La religion pour Allah c'est l'islam, il n'y a pas d'autre religion que l'islam. Et ad-din, c'est-à-dire al-tawhid. Donc, c'est comme s'il disait, certes, le tawhid pour Allah c'est l'islam. Et Allah ne va pas accepter une religion autre que le tawhid. C'est pour ça que quand on regarde toutes les religions qui existent, elles ont toutes dévié du tawhid. Elles ont toutes dévié du tawhid, peu importe la religion que vous regardez, hein, et que vous décidez, par exemple, d'étudier ou d'analyser les enseignements et les croyances d'une de ces religions-là, eh bien vous constatez que elle a des problèmes, elle a des erreurs, elle a des choses qui opposent le fondement le plus important de la religion qui est le tawhid. Hein? Comme par exemple les chrétiens, eh bien ils ont des problèmes dans le tawhid. Tawhid al-Rububiyya, ils attribuent à Allah un fils. Ils attribuent à Allah un fils. Hein? Et tawhid al-Uluhiyya, ils prient à Jésus, ils prient à Marie. Il prie à des saints, il prie à des croix, il prie à des images. Tout ça, ça vient en opposition et en contradiction avec le tawhid. Et dans Al-Asma wa Sifat, ils ont aussi des erreurs. Et tu peux faire tu peux comparer également et appliquer cette comparaison-là avec d'autres religions, hein, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme ou même le judaïsme. Et tu vois qu'ils ont des erreurs également dans le tawhid. Donc, tout ça pour dire que toutes les religions qui contredisent le tawhid sont rejetées. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 85, dans Surat Al-Imran, et quiconque recherche autre que l'islam comme religion, elle ne sera pas acceptée de lui. Et dans l'au-delà, ils seront du nombre des perdants. Hein, il sera du nombre des perdants. Donc l'islam, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de se soumettre à Allah en appliquant son tawhid, et en unifiant notre adoration pour lui. Et ça signifie également de se soumettre à lui par son obéissance, c'est-à-dire en obéissant à ses ordres, et également de se désavouer du shirk et de ceux qui le pratiquent. Donc ça, c'est la réalité de l'islam. La réalité de l'islam, c'est d'établir le tawhid d'Allah, de lui obéir, et de se désavouer du shirk et des gens qui pratiquent le shirk. Ça, c'est la réalité de l'islam que tous les messagers d'Allah, du premier jusqu'au dernier, ont amené. Ensuite, il explique la parole de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan lorsqu'il a dit Al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, c'est-à-dire Al-Karim Yusuf, alayhi salam, fils de Al-Karim, yani Ya'qub, fils de Al-Karim Ishaq, fils d'Al-Karim, Ibrahim, alayhim as-salatu was-salam. Fa Yusuf, alayhim as-salam, min silsilati anbiya, wa hadha huwa al-karam, as-sahih. Donc, quand quelqu'un, yani, comme on dit ici, il est descendant d'une série de prophètes, Donc ça, c'est la noblesse, hein? C'est la grande, c'est la plus grande noblesse qui soit, hein? Et il mentionne la parole donc de Yusuf alayhi salam, le jugement n'appartient qu'à Allah. Il a ordonné que rien ne soit adoré ou que vous n'adoriez personne ou rien excepté lui. Et le cheikh, il explique à ce sujet, il dit: ولما دخل يوسف عليه السلام السجن باشر الدعوة إلى الله عز وجل وهكذا أهل العلم والصلاح دائما يحملون هم الدعوة إلى الله عز وجل فينتهزون الفرص في السجن أو خارجه وفي المجتمع أو في المجتمعات أو في المجتمعات وفي كل مكان. فلما دخل يوسف عليه السلام السجن وجدهم يعبدون غير الله عز وجل ولما استفتوه في الرؤيا كما قص الله تعالى في ذلك في قوله عز وجل ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Donc le cheikh, il explique que Yusuf alayhi salam, il était rentré en prison. On connaît l'histoire pour laquelle il est rentré en prison lorsque la femme de Al-Aziz a voulu si on veut l'agresser d'une certaine façon, et lui il s'est enfui, elle a déchiré son vêtement et ensuite la femme l'a accusé. Elle a accusé que c'est lui qui voulait l'agresser. Finalement, il a été mis en prison pour quelque chose qu'il n'avait même pas commis. Donc il était innocent, hein? Mais il a été emprisonné malgré tout. Ça fait partie des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Yusuf alayhi salam soit enfermé de cette manière, c'est pour une sagesse, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il avait en cela une sagesse, hein? Donc des fois quand quelque chose de mal nous arrive, il faut comprendre que dans ça il y a une sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça ne veut pas dire que c'est nécessairement une punition, hein? Des fois au contraire c'est pour élever une personne en degré, ou bien pour lui donner une expiation de ses péchés ou des choses de ce genre. Et donc on voit que Yusuf alayhi salam, il est entré en prison et il a même en prison fait la da'wa, il a appelé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, le cheikh, il dit que c'est ainsi que les gens de science et les gens de bien doivent être. Ils portent l'intérêt de la da'wa, peu importe où ils sont. Et ils profitent des occasions, même en prison ou ailleurs, à l'extérieur ou dans les sociétés, différents endroits. Peu importe l'endroit où ils sont, ils en profitent pour appeler à Allah et inviter les hommes à l'adoration d'Allah seul. Et donc lorsque Yusuf alayhi salam est entré en prison, il a trouvé que les gens adoraient autre que Allah. Alors quand les gens sont venus lui demander des questions au sujet des songes qu'ils avaient ou des rêves qu'ils avaient, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela dans le verset dans sourate Yusuf 36. Il dit et deux garçons ou deux personnes sont rentrés avec Yusuf alayhi salam en prison. Et un d'entre eux, il a mentionné son rêve. Il a dit: je vois que je verse du vin. Hein? Je vois que je verse du vin. Et l'autre, il a dit: je vois que je porte des pains sur ma tête et les oiseaux en mangent. Et ils ont demandé de donner l'interprétation de ces songes-là et de ces rêves-là. Et يعني الشيخ دي ensuite فلم يبادر عليه السلام في الفتوى حتى دعاهم الى التوحيد وقال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي فذكر المؤهل فذكر المؤهل وهو العلم الذي علمه الله إياه ولم يغتر بنفسه وإنما قال مما علمني ربي فأثنى على الله عز وجل. والسبب إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم بدأ بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وهكذا دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هكذا، هذا هو الشاهد، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأمر له سبحانه، هو الذي يأمر وينهى، وقد أمركم أن لا تعبدوا إلا إياه، فيلزمكم الامتثال لأمر الله تعالى. أمر، وهذا أمر شرعي ديني، أمر شرعي ديني متروك للاختيار، لاختيار الناس، فالناس يفعلون الشرك باختيارهم ويفعلون التوحيد باختيارهم وهي أعمالهم. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit, il ne s'est pas empressé directement à leur répondre à leurs questions, tant qu'il ne les a pas appelés avant au tawhid, et il leur a dit, comme c'est mentionné dans le verset 37, vous n'allez pas recevoir de la nourriture comme subsistance, excepté que je vais avoir terminé de vous expliquer sa signification avant que cette nourriture-là vous arrive ou vous vienne. Et ceci fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné, c'est-à-dire l'interprétation des rêves. C'est pas quelque chose que je fais de moi-même. Non, c'est quelque chose que mon Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, m'a enseigné. Donc il renvoie la science à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne se trompe pas lui-même à croire que cette chose-là, ça vient de lui-même. Et il dit ensuite dans les versets 37 à 38, donc il dit qu'il a glorifié Allah subhanahu wa ta'ala. Et la cause, il a expliqué, il dit: j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah alors qu'il renie, il renie l'au-delà. Et j'ai suivi la religion de mes pères, Abraham, Ishaq et Yaqub. Et il ne convient pas pour nous de faire du shirk avec Allah et d'associer quelque chose avec lui, ou d'associer quoi que ce soit avec lui. Et cela fait partie de la grâce d'Allah sur nous et sur les hommes. Mais la plupart des hommes ne sont pas reconnaissants. Et donc il a commencé par la suite donc à les appeler au tawhid et à leur interdire le shirk. Et il leur a dit: ô vous mes deux compagnons de prison, est-ce que des seigneurs séparés et divisés sont meilleurs, de croire à plusieurs divinités séparées, est-ce que ça c'est mieux, ou d'adorer, de croire en Allah uniquement, l'unique et le contraignant? Donc il dit: ce que vous adorez en dehors de lui ne sont que des noms, des appellations que vous avez inventées, que vous avez donné à ces idoles-là, vous, ainsi que vos pères et vos ancêtres. Ma anzal Allahu biha min sultan. Allah subhanahu wa ta'ala n'a fait descendre au sujet de ces idoles et de ces choses que vous adorez aucune autorité, aucune preuve. Il n'y a aucune preuve au sujet de ce que vous adorez en dehors d'Allah et au sujet du shirk que vous pratiquez. Et c'est ainsi donc que se passe la da'wa des messagers, c'est ainsi qu'est la da'wa des messagers d'Allah. Puis ensuite, Yusuf alayhi salam a dit: le jugement n'appartient qu'à Allah, et il a ordonné que vous n'adoriez que lui. Et il dit, voilà le point qui est ciblé en fait, le point important dans tout ce que le cheikh a mentionné, c'est cette partie du verset, qui est la définition même du témoignage de la ilaha illallah. Amara an la ta'budu illa iyyah. Hein? C'est la même signification que la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc, il dit le cheikh que c'est comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et donc, l'ordre ici dont il est question dans le verset, il a ordonné que vous n'adoriez que lui, eh bien, cet ordre, c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui ordonne et qui interdit, et il vous a ordonné de n'adorer que lui. Et donc, il vous incombe de mettre cela en application, de mettre le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala en application. Et quand il dit amara, hein, le verbe amara en arabe qui veut dire ordonner, commander, eh bien ici il s'agit du commandement religieux, du commandement qui est connu par la révélation, hein, et non pas le commandement d'Allah dans sa création ou dans sa prédestination, mais le commandement dans la religion. Ça veut dire qu'on le connaît par l'intermédiaire de ses messagers, de ses prophètes et des livres. Et donc, le choix hein, de le mettre en application ou de ne pas le mettre en application revient à la décision et au choix des hommes. S'ils veulent l'abandonner, ils l'abandonnent par leur propre choix. Et s'ils veulent le mettre en application, ils le mettent en application par leur propre choix. Et ils appliquent le tawhid de leur bon gré. Hein, s'ils veulent le faire. Et donc, cela fait partie de leurs propres œuvres et de leurs propres actions. Ensuite, le cheikh il explique la suite du cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il mentionne la suite de son explication. Il dit, وَقَالَ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَقَالَ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه أناب وإليه مآب إليه أدعو وإليه مآب فأمره أن يعبده وحده وأن يدعو الأمة إلى ذلك والقرآن كله في هذا التوحيد وبيانه وجزائه والرد على من جحده كما قال تعالى وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a également dit à son prophète comme c'est mentionné dans le verset 36 dans sourate Ar-Ra'd, il dit ô Muhammad, il m'a uniquement été ordonné d'adorer Allah et de ne rien associer avec lui, c'est-à-dire de ne pas faire de shirk avec lui. C'est à lui que j'appelle, et que j'invite les hommes, et c'est vers lui hein, mon retour. C'est vers lui hein, ma destination, mon retour. Et il a donc ordonné les hommes d'adorer Allah seul et de l'invoquer, lui seul. Hein, et il a appelé la Ummah tout entière à cela. Il a appelé la Ummah tout entière à cela, et le Coran tout entier est au sujet du Tawhid. Tout ce qui est dans le Coran, du début du Mushaf jusqu'à la fin du Mushaf, d'une couverture à l'autre, tout ce qui est dedans est au sujet du Tawhid. Il n'y a rien d'autre dans le Coran que le Tawhid. Hein? Et quelqu'un peut poser la question, pourquoi? Hein? Comment tu peux dire ça? Il y a toutes sortes de choses dans le Coran, des règles, les adorations, l'histoire des prophètes hein, et des messagers, les interdictions et les ordres et ainsi de suite. Donc il n'y a pas que le tawhid, mais le cheikh il te fait comprendre qu'en réalité tout ça rentre dans le tawhid. Pourquoi? Parce que en réalité c'est l'explication yani, soit de yani, la récompense qu'on va donner aux hommes qui ont appliqué le tawhid. Donc quand il parle du paradis et de l'enfer, il parle de la récompense qu'il va donner aux gens du tawhid et la punition qu'il va donner à ceux qui ont désobéi à l'ordre d'Allah d'établir le tawhid. Quand il parle de l'histoire des prophètes, il parle yani, de l'histoire de ceux qui ont appelé au tawhid. Et quand il parle des peuples qui ont désobéi et qui ont été châtiés, il parle du sort de ceux qui ont désobéi au tawhid. Hein? Et ainsi de suite. Ça, l'imam Ibn al-Qayyim, il l'a bien développé ça dans l'explication qu'il a donnée de ça dans ses livres. Donc, il dit, donc, tout ça fait partie du tawhid. Et il mentionne le verset dans Surat Al-Ma'idah 15 et 16. Il dit, certes, vous est venu de la part d'Allah une lumière et un livre clair, un livre évident, un livre éclairant, qui guide, hein, Allah par celui-ci guide celui qui suit sa grâce sur les chemins de la paix, hein, les chemins de la paix, et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa permission, et les guide vers le droit chemin. Donc le cheikh il dit ensuite, il cite un verset dans un hadith plutôt, qui est le hadith, il dit « وفي حديث معاذ الذي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار فقال سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وذكر الحج ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. Donc ici il cite le hadith de Mu'adh radiyallahu anhu qui est rapporté par Abu Dawud et At-Tirmidhi. At-Tirmidhi a dit que c'est un hadith hasan sahih. Il dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, indique-moi une action, si je la fais, elle va me faire rentrer au paradis, et elle va m'éloigner de l'enfer. Alors il a dit, tu as demandé à propos de quelque chose de très grand, très important. Hein? Il a dit, et cela est facile pour celui pour qui Allah l'a rendu facile. Et puis il a dit ensuite, en quoi cela consiste? Il a dit, d'adorer Allah et de ne rien associer avec lui. Ça c'est la première chose qu'il a mentionnée, et ça c'est le témoignage de la ilaha illallah, d'adorer Allah et de ne rien associer avec lui dans l'adoration, d'établir la salat, de donner la zakat, faire le jeûne du ramadan. Puis il a mentionné le hajj, puis il a dit, veux-tu que je t'informe de la tête, hein, de cette affaire, ainsi que de son pilier et du plus haut point de sa bosse. Et il a dit, certes, ô messager d'Allah, hein. Et il a répondu, il a expliqué, il a dit, la tête de cette affaire, c'est-à-dire de cette religion, c'est l'islam. C'est-à-dire, comme on va le voir, le tawhid. Hein? Et umuduhu as-salat, son pilier, c'est la salat, la prière. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Le plus haut niveau de sa bosse. C'est parce qu'il compare cela, il donne l'exemple d'un anime, d'un chameau. Hein? Le plus haut point de sa bosse, c'est le djihad. Donc le cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith et il dit « وَهَذَا حَدِيثُ مُعَاذْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُهُ مِنَ النَّارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ لأن الذي يباعد عن النار ويقرب من الجنة هذا أمر عظيم وهو أهم ما يسأل عنه ويعتنى به. Donc le cheikh il dit que cette question de Mu'adh radiyallahu anhu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, c'était la plus importante de toutes les questions, parce que lorsqu'il dit c'est une chose importante, pourquoi il dit que c'est une chose importante? Parce que de qu'est-ce qui t'éloigne de l'enfer, qu'est-ce qui te rapproche du paradis, c'est la chose la plus importante à connaître. Et c'est important de donner à cela toute son importance. Et il dit ensuite, فأمر التوحيد ومعرفته معرفة الشرك هذا أهم ما يسأل عنه أو أهم ما يسأل عنه المسلم لأجل أن يستقيم عليه. وفي هذا رد على الذين ينهون أو يهونون يهونون من شأن التوحيد ويقولون الناس كلهم مسلمون لا تتعرضوا الذكر لذكر التوحيد خشية أن تنفروهم اتركوا الناس وعقائدهم وادعوهم إلى اجتماع الكلمة وهذا أمر عجيب كيف يجتمعون والعقيدة متفرقة؟ هذا لا يمكن ولا يمكن الجمع بين ضدين بين مشرك وموحد بين مبتدع وسني فهؤلاء يهونون من شأن التوحيد والدعوة إليه ويقولون يجب الاهتمام بجمع شمل المسلمين. نقول نعم، جمع شمل المسلمين أمر مهم وطيب، لكن ما الذي يجمع شملهم؟ لا يجمع شملهم إلا التوحيد وترك الشرك. ما الذي جمع شمل صدر هذه الأمة بعد أن كانوا قبائل متفرقة وأجناسا مختلفة فجعلهم أمة واحدة وإخوة متحابين؟ التوحيد، لا إله إلا الله، هو الذي جمع الله به القلوب. لما أخلصوا العبادة لله عز وجل وتركوا الشرك جمع الله قلوبهم على الهدى. Donc le cheikh il explique un point important. Il dit l'ordre ou la question du tawhid et de la connaissance du tawhid et la connaissance du shirk. Il dit ça c'est la chose la plus importante au sujet de laquelle le musulman peut demander des questions pour pouvoir s'établir et se mettre droit et s'accrocher fermement à cela. Et donc il y a ici une réfutation de ceux qui dénigrent ou diminuent de l'importance du tawhid et qui disent aux gens, laissez les gens, on est tous musulmans, laissez les musulmans, pas besoin de leur parler du tawhid, pas besoin de leur parler de ça. Si vous leur mentionnez le tawhid, vous allez leur faire peur, ou bien vous allez les faire fuir, ils vont pas vouloir vous écouter, ou bien ils vont vous allez les éloigner. Allahu al-musta'an. Laissez les gens, chacun sur la croyance qu'il veut suivre, et appelez-les à se réunir et à s'unifier, unifier leurs paroles. Et le cheikh dit ça, c'est une chose étonnante. Comment ils peuvent dire ça? Ils peuvent se réunir? Comment on pourrait les réunir alors que leur aqidah est divisée? Comment on peut réunir les musulmans si leur aqidah est divisée? Celui-là, il est chiite, celui-là, il est soufi, celui-là, il est mu'tazili, celui-là, il est Tijani, celui-là il est Maturidi, celui-là il est Ikhwani, l'autre il est Diobandi, et ainsi de suite. Yani, comment tu veux unir les gens alors que leur croyance est divisée? Dans ce cas-là, on sait bien d'unir toutes les religions ensemble, les bouddhistes, les hindous, les chrétiens, les Krishna, toutes les différentes croyances, et puis tu dis, bon, finalement, on va tous s'unir ensemble. Non, c'est pas possible, c'est pas comme ça. Le Cheikh il dit, comment tu veux unir des gens alors que leur aqidah est divisée? Cela n'est pas possible, et on ne peut pas réunir entre des choses qui sont contradictoires, des choses qui sont opposées. le prophète Mohammed, quand il a laissé les sahaba, est-ce qu'il les a laissés sur différentes croyances, différentes sectes, différents groupes? Est-ce que parmi les sahaba il y avait des Tijani, il y avait des Maturidi, il y avait des Naqshbandi? Est-ce qu'il y avait parmi eux des Khawarij, des Takfiriyin? Est-ce qu'il y avait des Ikhwan, des Tablir, des différents groupes et des différentes sectes? Non. Tous les sahaba étaient unis sur une seule aqida et sur un seul islam. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas besoin d'utiliser aucune autre appellation entre eux pour se distinguer. Il n'y avait pas besoin de se distinguer entre eux parce qu'ils étaient tous sur la même aqidah et le même islam. Aujourd'hui, tu vois des musulmans, ils disent, « Ya akhi, pourquoi tu dis des salafis ?» Tu divises les musulmans. On est tous musulmans, il faut juste dire musulmans. On n'est ni ikhwani, ni tabliri, ni salafi, ni khariji, ni si, ni ça. On est juste musulmans seulement. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire ça. Tu pouvais dire ça à l'époque des sahaba, il n'y avait rien d'autre que la salafie, il n'y avait rien d'autre que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé. Il n'y avait pas d'autre chose entre eux qui les divisait. Mais aujourd'hui, entre les musulmans, entre la umma, il y a toutes ces différentes sectes, ces différents groupes qui ont des croyances différentes, des méthodologies différentes. Si tu dis, il ne faut pas dire les noms, il faut juste dire qu'on est musulmans, eh bien ça veut dire en réalité que tu as détruit même la signification. Qu'est-ce que ça veut dire l'islam? Avec cette compréhension-là, ça veut dire que l'islam n'a plus de sens, n'a plus de signification. Parce que ça voudrait dire que dans l'islam, il y a une chose et son contraire en même temps. Ça ne fait pas de sens que ce soit comme ça. Et c'est pour ça que le cheikh dit, tu ne peux pas réunir entre des choses qui sont contradictoires. Tu dois donc, le cheikh il dit, tu ne peux pas unir entre, par exemple, le mushrik et le muwahhid, celui qui est sur le shirk et celui qui est sur le tawhid, entre le mubtadi', celui qui est sur l'innovation et celui qui est sur la sunnah. Hein? Al-tawhid, al-muwahhid wa al-mushrik. Al-muwahhid wa al-mushrik. Al-mubtadi' wa al-sunni. Et ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui dénigrent ou qui diminuent ou qui veulent rabaisser l'importance du tawhid de cette manière. Hein? Et qui veulent dénigrer et enlever de l'importance à la da'wa au tawhid. Et qui disent il faut se concentrer sur le fait d'unir les musulmans. Et le cheikh il dit, nous on dit à ces gens-là, oui il faut unir les musulmans. C'est vrai qu'il faut les unir. Hein? Ça c'est une chose importante et c'est une chose qui est bonne. Sauf que, qu'est-ce qui va les réunir? C'est ça la question. Qu'est-ce qui va réunir les musulmans? Il n'y a rien qui va unir les musulmans de façon réelle, excepté le tawhid. Hein? Et l'abandon du shirk. Hein? Qu'est-ce qui a uni les premiers musulmans de cette umma, les sahaba? Qu'est-ce qui les a réunis? Hein? Alors qu'ils étaient des tribus, différentes tribus. Ils étaient différentes origines, des gens d'origines différentes, de tribus différentes, de traditions différentes, de coutumes différentes, de langages différents, de couleurs différentes. Et qu'est-ce qui les a réunis? Qu'est-ce qui les a fait devenir une seule et unique nation? Des frères qui s'aiment en Allah? Comment c'est arrivé? Avec quoi? Le cheikh il dit, c'est avec le tawhid, uniquement. Avec la ilaha illallah. Hein? C'est ça qui a, c'est par cela que Allah a réuni les cœurs. C'est par cela que Allah a réuni les cœurs. Hein? Regardez par exemple quand vous voyez par exemple des gens qui viennent de différentes régions, chacun ils ont leur pratique, chacun ils ont leur bid'a, chacun ils ont leur croyance. Hein? Et qu'ils ne reviennent pas à la sunna, ils ne reviennent pas au tawhid pour s'entendre entre eux. Vous voyez, chacun veut rester dans son coin, chacun veut rester dans sa pratique, isolé de l'autre. Personne veut approcher l'autre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se critiquent de loin et ils s'envoient des flèches les uns aux autres. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils refusent de prendre les points qui les réunissent, c'est-à-dire de revenir à la base pour s'unir et pour se mettre d'accord. Ils ne veulent pas faire ça. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas s'unir. Hein? Mais s'ils abandonnent leurs innovations et ils abandonnent tout ce qui contredit la sunna, là, ce sera possible de les réunir. Lorsqu'ils vont purifier leur adoration pour Allah et abandonner le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala va les guider et unir leur cœur sur la guidance. Ensuite, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alayhi min fi'l sabab ou man fa'al sabab wa aqbala ala Allah biqalbihi sahala Allahu lahu hadha al-amr al-azim wa yassara lahu ma arad. » Le cheikh il dit, hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une chose qui est importante et grave, c'est très sérieuse, mais c'est quelque chose qui est facile pour celui pour qui Allah l'a rendu facile. Et le cheikh il explique que ça veut dire que celui qui fait les causes, hein, et qui fait les premiers pas, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il va lui faciliter cette chose. Donc celui qui se tourne vers Allah avec son cœur, avec sincérité, qui s'oriente vers Allah, qui se tourne vers lui et qui fait les causes pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et pour être sincère dans sa religion, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter l'application de cette religion-là. Hein? Et donc c'est pour ça que des fois tu vois les choses de l'extérieur, tu dis, ah ça c'est trop, hein? C'est trop difficile, c'est trop compliqué. Ça c'est vu de l'extérieur. Hein? Avant de rentrer dans la religion, tu le vois de l'extérieur, tu trouves ça beaucoup. Mais une fois que tu rentres dans la religion avec ton cœur, avec sincérité, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider dans cette religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va ouvrir ton cœur à l'obéissance et il va te faciliter l'adoration et la pratique de cette religion. Donc ce que tu trouvais difficile ou ce qui te semblait difficile au début, eh bien, tu constates par la suite que cela devient facile pour toi parce que tu as fait les démarches pour justement que ce soit facile. Il y a des frères, des fois, ils me demandent, ils me disent parfois, « Ya akhi, subhanallah, c'est difficile, des fois, je trouve ça difficile, la religion, j'ai de la difficulté à pratiquer des choses. » Je dis, « Est-ce que tu as demandé à Allah de t'aider ? Est-ce que tu as demandé à Allah de te faciliter cette religion et tu lui as demandé de te rendre facile et de te faciliter la pratique de l'islam ?» Donc, quand tu fais des efforts, tu demandes à Allah, « Oh Allah, aide-moi. Hein? Aide-moi à faire ma salat, aide-moi à établir mon jeûne, aide-moi à appliquer ma ibadah, mon adoration, et ainsi de suite. » Et puis, tu vas voir, Allah, il va t'aider. Aide-moi dans l'ilm. Aide-moi à apprendre l'arabe. Aide-moi à apprendre la religion, à mémoriser le Coran. Allah, subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter. Hein? Si tu lui demandes avec sincérité que tu fais les efforts, Allah, il va te le faciliter. Mais si tu penses que tout ça, tu vas le faire par tes propres moyens, sans l'aide d'Allah, tu vas jamais être capable. Hein? Tu vas jamais être capable. Et c'est ça le problème. Pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a enseigné de dire dans surat al-Fatiha, dans chaque raka'a, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas adorer Allah sans son aide. C'est impossible. Hein? Tu ne peux pas. Tu as besoin de l'aide d'Allah pour établir son adoration. Ce n'est pas pour rien qu'il a mis ces versets-là dedans. Hein? Après, le shaykh, il dit « Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah » Il donne l'explication par la suite. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وهذا هو معنى الشهادتين لأن شهادة أن لا إله إلا الله تدخل فيها شهادة أن محمدا رسول الله وهذا هو الركن الأول تدخل فيها شهادة أن محمدا رسول الله وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام. Donc il dit, et tu adores Allah et tu ne fais pas de shirk avec lui, tu n'associes rien avec lui. Et ça, c'est la définition des deux témoignages. Le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Parce que le témoignage de la ilaha illallah, c'est-à-dire le témoignage de Muhammad Rasulullah, que Muhammad est le messager d'Allah, il entre dans le témoignage de la ilaha illallah. Et donc, il dit ça, c'est le premier pilier, parmi les piliers de l'islam. Wa tuqimu as-salah, ay as-salawat al-khams. بأن تأتي بها على الوجه المشروع بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها والخشوع فيها وهذا معنى إقامة الصلاة أما مجرد هيئة الصلاة من ركوع وسجود وقيام وجلوس فليس ذلك إقامة للصلاة أو إقامة للصلاة فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي بل قال تقيم الصلاة وهو الذي جاء الأمر به في القرآن وأقيموا الصلاة وإقامة الصلاة على نوعين إقامة ظاهرة بالإتيان بمشروعياتها أو بمشروعاتها من شروط وأركان وواجبات وإقامة باطنة بخشوع القلب فيها وإقباله على الله عز وجل. Donc il explique la salat, l'établissement de la salat, qu'est-ce que ça signifie? C'est d'établir les 5 prières par jour obligatoires, et c'est-à-dire de les faire de la manière qui a été légiférée en établissant ces conditions, ces piliers, ces obligations, ces recommandations, et en ayant dans cette prière l'humilité et la soumission d'être humble et de se concentrer dans la prière. Et donc ça, c'est la signification d'établir la salat. Et il explique que si c'était juste de faire les mouvements et les rituels, les formes, de bouger, faire le recours, faire le sujoud, faire le qiyam, faire le julus, ça c'est pas suffisant. C'est pas établir la salat. Établir la salat, c'est plus complet. C'est pour ça qu'Allah il a pas dit sallu, ou bien tu salli. Non. Il a dit wa tuqimu salat. Tu vas établir la salat, pas juste tu vas faire la salat, tu vas établir la salat. Et donc ça comprend de l'établir avec tout ce que ça contient. Et l'établissement de la salat, elle est de deux catégories. L'établissement de la salat extérieure qui est apparente, c'est-à-dire de faire tout ce qui est légiféré comme conditions, piliers et obligations dans la salat, c'est-à-dire les mouvements et les gestes et les paroles. Et l'établissement de la salat à l'intérieur de notre cœur, c'est-à-dire avec l'humilité et du fait de se recueillir et d'adorer Allah avec dévotion dans notre cœur, ça c'est la partie intérieure de la salat. Donc il faut voir les deux. Il ne faut pas juste voir le côté physique des mouvements qu'on fait. C'est comme une fois, je me rappelle, dans une mosquée, j'étais dans une mosquée à Montréal, et un homme qui faisait une khutbah, subhanallah, c'était pas l'imam habituel de la mosquée, c'était quelqu'un, je sais pas, il a remplacé l'imam pour une raison ou pour une autre. Il a commencé à dire la salat, c'est comme de l'exercice. Il dit, au lieu d'aller au gym, comme si lui, il donnait ça comme modèle, comme exemple, pour dire, si tu veux parler avec des non-musulmans, explique-leur comme ça. Comme si tu leur dis, si tu parles avec des non-musulmans, tu leur dis, pour nous, la prière, c'est comme de l'exercice. On n'a pas besoin d'aller au gym. Hein? On fait 5 prières par jour. On se lève, on se prosterne et des choses de ce genre. Ça, ce n'est pas la salat. Hein? Si c'est juste de faire les mouvements comme ça pour faire de l'exercice physique, hein? c'est pas ça la signification de la salat. Hein? Bien entendu, il y a la présence du cœur, la concentration, l'humilité, la dévotion. Et tout ça, c'est des choses qui sont fondamentales dans la salat, hein? Le recueillement et ainsi de suite. Ça, c'est le plus important même dans la salat. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, hein? L'extérieur, c'est important aussi, mais c'est pas plus important que l'intérieur. Et il dit wa tu'ti az-zakat allati shara'aha Allah fil mal lil fuqara'i wal masakin wa tasum ramadan wa dhakara al hajj wa hadhihi arkan al islam al khamsa fa idha aqamaha al muslim fa innahu yuqimu ma adaha min bab awla ولا تقبل بقية الأعمال إلا مع إقامة أركان الإسلام فمن أخل بأركان الإسلام أو ببعضها فإنه لا تنفعه بقية الأعمال ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إقامة هذه الأركان الخمسة وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قال بلى يا رسول الله وهذه زيادة فائدة قال رأس الأمر الإسلام وهو إخلاص العبادة لله عز وجل فالتوحيد هو رأس الأمر وهو الأساس وعموده الصلاة عمود الإسلام الصلاة فكما أن البيت لا يقوم إلا على عمود فكذلك الإسلام لا يقوم إلا على الصلاة فإذا فقدت الصلاة لم يقوم الإسلام وهذا يدل على أهمية الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله هذه أعلى فإذا تمت هذه الأمور كلها أو كلها جاء الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وضحد الشرك وأهله. Donc le cheikh il dit ensuite, tu donnes la zakat. C'est qu'est-ce qui a été légiféré par Allah comme un bien que tu donnes aux pauvres et aux gens qui sont dans le besoin. Et tu établis, tu jeûnes le mois de Ramadan et tu fais le Hajj. Il a mentionné le Hajj ensuite. Ça, c'est les 5 piliers de l'islam. Si le musulman les a établis, alors c'est sûr qu'il va établir le reste. Tandis que ses autres œuvres ne seront pas acceptées, excepté s'il a commencé par établir les 5 piliers de l'islam. Parce que les 5 piliers de l'islam, c'est qu'est-ce qui retient le reste. Hein? En particulier, le premier, le tawhid. Et donc, celui qui n'a pas établi les 5 piliers, ou qui n'a pas établi certains de ces 5 piliers-là, eh bien, le reste des œuvres qu'il fait ne lui seront pas d'aucune utilité. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté et a orienté les musulmans vers le fait d'établir ces 5 piliers de l'islam. Et il dit, parce qu'il y en a qui pensent que dans l'islam il y a seulement ça, il y a seulement les 5 piliers. Mais non, il y a beaucoup d'autres ordres, il y a beaucoup d'autres obligations, il y a des interdictions, il y a aussi d'autres principes. Mais ça, c'est les principes de base qui retiennent le reste. D'accord? Et après, le cheikh, il dit, et ensuite, il lui a dit, veux-tu que je t'informe de ce qui est la tête de cette religion, ainsi que de son pilier et du plus haut point de sa bosse? Et il a dit, oui, messager d'Allah. Et ça, c'est pour rajouter un bienfait, un point bénéfique. Et donc, il lui dit, la tête de cette affaire, c'est l'islam. C'est-à-dire le fait de purifier notre adoration pour Allah seul et de l'adorer avec ikhlas, avec sincérité et pureté. Et de l'adorer lui seul et de renier et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Ça, c'est le tawhid et c'est ça la base même de cette religion et c'est le fondement même de cette religion. Wa umuduhu salat, et son pilier, c'est la salat. C'est-à-dire que une maison, elle ne peut pas se tenir sans pilier. Hein, s'il n'y a pas de pilier pour retenir le toit, hein, la maison s'écroule. Eh bien, la salat, c'est la même chose par rapport à l'islam. Elle a le rôle du pilier qui retient le toit et qui retient cette construction-là. Si on perd la salat, eh bien, l'islam ne peut pas se tenir. Hein, l'islam ne peut pas se tenir. Et on voit que, en fait, le fait que dans l'islam, il y ait justement cette salat et que cette salat soit établie en jama'a, en groupe, eh bien, c'est ce qui fait que la vie du musulman, elle est établie sur l'adoration. Hein? Toute la vie du musulman tourne autour de l'adoration et on ressent vraiment dans l'islam que le but de notre existence et le but pour lequel Allah nous a créés, c'est pour l'adorer. Que notre vie est une forme d'adoration. Et non pas le contraire comme les koufars, par exemple, qui eux ne vivent que pour la dunya. Ils vivent pour travailler, ils vivent pour manger, ils vivent pour toutes les choses de la dunya, comme des animaux. Les animaux, ils mangent et ils dorment et ils se reproduisent et ça s'arrête là. Ils font ces choses-là instinctivement. Et nous, Allah, il nous a honoré les êtres humains par la raison, par la conscience qu'il nous a donnée pour être capable justement de comprendre un but plus profond, plus important, plus fondamental à notre existence. Et c'est pour ça que, une fois qu'on a compris ça, eh bien, on établit tout le reste de notre vie sur l'adoration. C'est pas le contraire. On n'établit pas la vie, par exemple, sur l'économie, puis qu'on met, par exemple, l'adoration dans la marge, comme si c'est quelque chose de secondaire à la vie, et que l'économie, c'est la priorité. Non. Ça, c'est les matérialistes qui pensent comme ça. C'est les capitalistes et les communistes et les autres koufars. Comment ils ont imaginé un système pour gérer la vie des hommes. Mais le musulman, sa vie, elle est établie sur l'adoration d'Allah. Et le but de son existence, c'est al-ibada, comme Allah il le dit dans le verset « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Donc, la tête de cette religion, c'est le tawhid, l'ikhlas. Et son pilier, c'est la salat. Et ça nous indique, ça nous montre son importance, que c'est le pilier de la religion. وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Ça, c'est le niveau le plus élevé. Donc, le cheikh explique, il dit, quand on a établi tous ces différents aspects du tawhid et de la salat et des autres piliers de l'islam, eh bien là vient le jihad fi sabilillah, le fait de lutter et de combattre dans le sentier d'Allah pour élever la parole d'Allah, pour que la parole d'Allah soit la plus haute, pour que la parole des hommes soit rabaissée en dessous de la parole d'Allah, pour que les hommes ne soient pas rendus esclaves des hommes, pour que les hommes plutôt soient libérés de l'esclavage de l'homme par l'homme, mais et qu'ils soient réellement des esclaves de leur créateur et non pas des créatures. Donc ça, c'est le but du djihad fondamental, et c'est d'écraser le shirk et ceux qui le pratiquent, d'écraser le shirk et ceux qui le pratiquent, et pour faire en sorte que l'adoration d'autre que Allah ne soit pas apparente. L'adoration d'autre que Allah ne soit pas apparente sur terre. Et que seule l'adoration d'Allah soit apparente. Après, donc, il explique وَرَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامِ فِي قَوْلِهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ يعني وَفَسَّرَهُ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ تَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَالْإِسْلَامُ هُوَ إِسْلَامُ الْوَجْهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَ قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهذا هو التوحيد وهو الإخلاص وإسلام الوجه يعني القصد والنية في القلب لله عز وجل. Donc le cheikh explique que la tête de cette religion c'est l'islam. Il l'a expliqué au début du hadith en disant que c'est d'adorer Allah seul et de ne rien associer avec lui. Donc l'islam, l'islam, c'est de soumettre ton visage à Allah, c'est-à-dire de soumettre tout ton être à Allah subhanahu wa ta'ala tout entier. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 112 dans Surat al-Baqarah, certes celui qui a soumis son visage à Allah, c'est-à-dire qui a établi le tawhid et qui a adoré Allah avec ikhlas, avec sincérité et pureté dans son adoration. Et donc c'est ce que signifie le fait de soumettre son visage, c'est-à-dire de soumettre notre intention et notre objectif dans notre cœur, que ce soit uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les autres piliers, as-salat, as-zakat, as-siyam, wal-hajj, wa baqiyatu al-a'mal min huquq al-tawhid wa mukammilatihi, walakin a'mal bidun tawhid la fa'idata minha ولا قيمة لها وإسلام بدون صلاة لا حقيقة له ولا فائدة منه. Donc le cheikh il explique que la salat, la zakat, le jeûne, le hajj, et donc toutes les autres aspects et les autres pratiques de la religion sont des droits du tawhid. Et c'est des choses qui viennent compléter et parfaire le tawhid. D'accord? Donc c'est pas pour dire que si quelqu'un il dit ah moi je prie pas, je jeûne pas, je fais pas d'adoration, j'applique pas les piliers, mais j'applique juste la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, que j'ai appliqué le tawhid. Non, tout ça c'est réuni ensemble, et les autres aspects de l'islam ça complète le tawhid, c'est ce qui vient de renforcer ton tawhid. Comment tu peux avoir un tawhid si t'abandonnes l'adoration, alors que le tawhid, c'est d'unifier, de rendre ton adoration pure pour Allah. Donc, pour que tu puisses rendre ton adoration pure pour Allah, il faut qu'il y ait de l'adoration. S'il n'y en a pas, comment elle peut être purifiée? Donc, tu dois l'adorer pour qu'elle soit purifiée, cette adoration-là. Et ça, c'est ce qui vient compléter ton tawhid. Ça veut dire que si tu fais des choses qui sont en contradiction avec les piliers de l'islam, tu fais des péchés, tu désobéis à Allah, ça vient affaiblir ton tawhid. D'accord? Et ça, il y a un chapitre à ce sujet-là. Lorsqu'on arrive à ce chapitre, Man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannah bi ghayri hisabin wala 'adab. C'est-à-dire celui qui a purifié son tawhid, Allah, il va le faire rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Et là, dans ce chapitre-là, il explique en réalité que le tawhid, il est pas au même niveau pour chaque personne. D'une personne à l'autre, le tawhid, il peut être très élevé comme il peut être faible. Il peut monter comme il peut descendre. C'est-à-dire la force du tawhid d'une personne. On n'a pas tous le même niveau de tawhid. Par exemple, on n'a pas le tawhid d'Ibrahim alayhi salam. C'est-à-dire on est tous différents selon le niveau de notre pratique et de notre foi et de notre application. D'accord? C'est ça en fait la signification. Et faut pas penser que les actes qu'on fait ou les choses qu'on dit n'ont pas d'impact sur notre tawhid. Ça c'est incorrect. Donc le cheikh dit que si on applique les autres actes de l'islam, ça fait partie des choses qui viennent compléter et parfaire notre tawhid, tandis que des actions qu'on ferait sans avoir établi le tawhid, eh bien ça n'a aucune valeur non plus. D'accord? Faire des actions sans le tawhid, ça c'est nul aussi. Ça n'a aucune valeur. Donc un islam également sans salat, il n'a pas de réalité aussi. Il n'y a pas de bienfait là-dedans non plus. Et c'est pour ça que dans plusieurs hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué que la chose qui distingue entre le musulman et le mushrik, c'est la salat. Bayna ar-rajul wal kufr wa ash-shirk tark as-salat wa man taraka as-salat faqad kafar. Donc celui qui abandonne la salat, il a renié la foi. Ça c'est des hadiths qui mentionnent l'importance de la salat, et que celui qui la délaisse, il a renié la foi, Et certains ulama considèrent que, c'est-à-dire, ça, c'est quelque chose qui diminue la foi, et que c'est une mécréance mineure. Ça, c'est la position de la majorité des ulama qui considèrent que l'abandon de la prière par paresse, par négligence, que ça ne fait pas sortir de l'islam de façon absolue. Mais, toutefois, il y a quand même des ulama qui considèrent que celui qui délaisse la salat totalement et entièrement, qu'il n'a pas de foi. Il n'a pas d'iman. Ça, c'est la position de ceux qui considèrent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui abandonne la salat, il a mécru, c'est dans son sens absolu. Hein? Tout ça pour dire que, yani, donc, la salat, elle a une grande importance. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'accepter. Accepter ta religion si tu n'as pas établi ta salat. Il dit wala tuqbalu as-salat wala ghayriha min al-a'mal illa bil islam, yani bil tawhid. Bidun at-tawhid la tuqbalu al-a'mal, kama qala ta'ala wala law ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Wa qala ta'ala wala in ashrakta la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف وقال سبحانه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة فالأعمال بدون توحيد لا قيمة لها ولا فائدة منها. Donc on va terminer avec ceci pour aujourd'hui. Le cheikh il explique pour terminer que Allah ne va pas accepter ni la salat, ni aucune autre de tes œuvres sans l'islam, c'est-à-dire sans le tawhid. Et sans le tawhid, donc aucune action ne sera acceptée. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surat Al-An'am, le verset 88, et s'ils auraient commis du shirk, toutes leurs œuvres, hein, tout ce qu'ils ont fait comme action aurait été vain, hein, aurait été nul. Et le verset dans Surat Az-Zumar, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit et si tu aurais commis du shirk, nous aurions rendu ton œuvre vaine et tu aurais été du nombre des perdants. Et le verset 18 dans Surat Ibrahim, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit l'exemple de ceux qui ont mécru, leurs œuvres, hein, l'exemple de ceux qui ont mécru en leur Seigneur, leurs œuvres sont comme un mirage. Hein, leurs œuvres sont. Il y a un verset qui dit leurs œuvres sont comme un mirage. Hein? Et l'autre verset, ça c'est le verset, pardon, j'ai inversé, le verset 18 dans Surat Ibrahim, leurs œuvres sont comme de la poussière frappée par un vent dans un jour de tempête. Hein? Et l'autre verset, le verset 39 dans Surat An-Nur, l'exemple des actions des mécréants est semblable à un mirage. Il s'avance vers le mirage comme quelqu'un qui est dans le désert. Il voit au loin, il pense qu'il y a de l'eau. Puis quand il arrive, il réalise qu'il n'y a rien. C'était du sable. Hein? Donc c'est la même chose pour les mouchriquins, les koufars qui font des bonnes œuvres. Ils arrivent au jour de la résurrection pensant qu'ils ont plein de bonnes œuvres qui les attendent. Et ils réalisent que c'était rien, c'était un mirage. Il n'y a pas de bonnes œuvres pour eux parce que leurs œuvres n'étaient pas établies ou faites sur le tawhid. Donc, les œuvres sans tawhid n'ont aucune valeur. Peu importe la grandeur et l'importance et la quantité de ces œuvres-là. D'accord? Donc ça, c'est très, très important de le comprendre. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفيكم بركة إن شاء الله وإياكم